Et avec notre invité ce matin dans le 8h30, Éric Lyons, président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Il y a quelques jours, une agricultrice, se donnait la mort à Risoul. Vous le disiez, c'est le deuxième suicide dû à la détresse agricole dans le département depuis le début de l'année. Éric Lyons, la détresse agricole, ça ressemble à quoi? On en parle beaucoup en ce moment avec le film avec Guillaume Canet, Au nom de la terre, mais il semble compliqué de définir ce mal actuel.
Le monde agricole subit une pression assez importante, même je dirais très importante, de la part de, je dirais, une pression qui est quand même due essentiellement d'un point de vue médiatique, où il y a toujours des sujets sur lesquels on appuie pour faire mal. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez lourd à supporter. Globalement, il y a plusieurs causes à cela. Bien entendu, le monde agricole est en concurrence, les agriculteurs sont mis en concurrence avec les agriculteurs du monde entier. On a vu récemment, avec les accords de libre-échange que le gouvernement a validés, les accords du CETA, qui nous mettent en concurrence tout simplement avec, des pays d'Amérique du Nord qui ne supportent pas les mêmes normes de sécurité environnementale, sanitaire, etc. Comment voulez-vous mettre en concurrence des agricultures complètement différentes ou des exploitations qui font plusieurs milliers d'hectares avec où il n'y a pas de fonctionnaires pour venir encadrer et surveiller les pratiques? Donc c'est assez simple. Par contre, nous, une agriculture européenne hyper encadrée et une agriculture française qui a toujours tendance à superposer des directives européennes avec des directives françaises. Donc tout ça s'ajoute.
Éric Lyons, par rapport à ce traité transatlantique du CETA, on a posé la question à Pascale Boyer, la députée Hautes-Alpes, parce que son vote pour le CETA lui a souvent été reproché. Elle, ce qu'elle explique, c'est que ce CETA peut être favorable pour l'agriculture française parce que ça va permettre d'augmenter aussi les exportations.
Effectivement, dans ces accords de libre-échange, il y a des productions qui sont plutôt avantagées et des productions qui sont plutôt désavantagées.
Alors, qui gagne, qui perd?
Alors, je dirais que globalement, des productions qui gagnent, c'est surtout les productions qui vont plutôt bien en France, que sont la viticulture ou la vente de fromage, puisque bon, ce sont vraiment des spécificités françaises. Et par contre, on met en concurrence les producteurs de viande bovine, les producteurs de viande porcine, les céréaliers. Donc déjà, un secteur qui subit de plein fouet la concurrence mondiale, voilà.
Mais vous ne faites pas confiance au consommateur qui, lui, pourrait se diriger vers des produits locaux avec plus de sécurité au niveau sanitaire?
Il y a tous les consommateurs. Il y a le consommateur averti qui, lui, va rechercher ses produits de proximité, les produits locaux, des produits labellisés, etc. etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie des consommateurs, et on l'a vu ces derniers mois, qui sont prêts à se battre pour des pots de Nutella en promotion, je veux dire. Et je ne suis pas sûr que tout le monde fait attention à ce qu'il consomme. L'agriculture française, qui depuis l'après-guerre affichait chaque année plusieurs milliards d'excédents commerciaux, pour la première fois l'année dernière, en 2018, a accusé un déficit de 300 millions d'euros. Je veux dire, tous les clignotants aujourd'hui sont au rouge, et c'est pas en mettant l'agriculture française en concurrence avec les pays du monde entier qu'on va effectivement diminuer le bien-être, diminuer, disons, le malaise paysan, mais au contraire, on l'accentue.
Vous parliez, Éric Lyons, il y a quelques instants, de ce que l'on appelle aujourd'hui l'agribashing. Est-ce qu'il faut condamner cette population qui aujourd'hui s'éveille et fait attention à ce qu'elle a dans l'assiette et à comment les animaux sont tués? Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui.
L'agribashing, c'est, je veux dire, le dénigrement de tout ce qu'on peut faire. L'agriculture française et européenne fait pour nos consommateurs. Il faut que nos concitoyens sachent que les produits consommés en France et en Europe sont parmi les plus sûrs au monde. L'espérance de vie a augmenté au cours de ce siècle de façon considérable, tout simplement parce qu'on a amélioré la nourriture. Il ne faut pas, oublier qu'aujourd'hui, on a une frange de la population toute petite, mais très vindicative, très revendicative, qui n'hésite pas à attaquer en permanence sur les réseaux sociaux, une agriculture qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous rencontrons, les gens ont une image épinale de l'agriculture. Souvent, les publicités par les grands groupes agroalimentaires montrent un agriculteur avec un béret sur la tête et des sabots et derrière, je veux dire, on industrialise la production. Donc il faut être très attentif à ça. C'est que le consommateur, il faut qu'il se fasse une véritable opinion de ce qu'il a dans son assiette et de la façon dont les produits sont fabriqués. Entre, je dirais, ces populations extrémistes, moi j'appelais les véganes, les 214 et autres, qui n'hésitent pas à violer les exploitations en pénétrant et en allant prendre des images qui les arrangent, parfois aussi dans des cas où, effectivement, la situation, elle doit être corrigée, et ça, moi, je suis là-dessus, il n'y a aucun souci, et il n'y a pas de tabou, hein, mais on ne peut pas faire croire aux gens qu'on vit dans un monde de bisounours aujourd'hui.
Ouais, vous ne tolérez pas ces pratiques, ce type de pratiques, en tout cas pour dénoncer certains points. Alors, le glyphosate, Éric Lions, aujourd'hui, on en parle aussi beaucoup. La France s'est engagée à se passer de cet herbicide dès le 1er janvier 2021 dans ses principaux usages. Ce sera le 1er janvier 2023 pour l'ensemble de ses utilisations. Mais il y a un rapport parlementaire qui sera présenté ce mercredi. Et selon ce rapport, en finir avec le glyphosate, eh bien, cela coûtera cher aux exploitants, entre les frais de main-d'œuvre, la consommation de carburant qui sera multipliée par 3 ou 4, les investissements en matériel nouveau. Bref, on estime que l'interdiction alourdira les charges des exploitations entre 50 et 150 euros l'hectare. Est-ce qu'il n'était pas possible d'envisager plutôt une transition vers une absence de glyphosate ?
L'affaire du glyphosate, notre département est très peu utilisateur de produits phytosanitaires. Et on est très peu impacté par l'arrêt du glyphosate. Très, très peu.
Parce que la transition vers le bio a été engagée plus tôt.
Ben, déjà, en ce qui concerne le département des Hautes-Alpes, vous savez, c'est l'un des premiers départements français en matière d'agriculture biologique où 30% des surfaces sont en bio, plus de 30%. Donc, aujourd'hui, un agriculteur sur trois est en bio. Déjà, là, de ce côté, je dirais, il n'y a pas de problème de glyphosate. Deuxièmement, on a quand même 30% des surfaces dans ce département qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, j'ai jamais vu qu'on utilisait du glyphosate non plus dans nos alpages. Donc, c'est très, très marginal. Et il ne faut pas aujourd'hui faire d'un sujet où sur la planète, il y a des agricultures qui sont complètement liées à la production de glyphosate. Et notamment en Amérique du Nord, avec lesquels le gouvernement a signé des accords de libre-échange dans le cadre du CETA, où l'utilisation de glyphosate fait partie intégrante de la mise en place et du suivi des cultures. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, pour faire mûrir les blés, le blé dur notamment, compte tenu de leur climat, ils utilisent du glyphosate pour activer la dessiccation des céréales. Et nous, on nous fait tout un plat avec ça, et on met l'agriculture et les agriculteurs au pied du mur sans avoir préparé de véritables solutions alternatives. L'histoire du glyphosate nous démontre que dans la précipitation, on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions, et qu'il faut avoir un peu de recul quand on parle d'agriculture, parce que, vous savez, l'agriculture, c'est un gros paquebot sur lequel on ne peut pas prendre des virages à 180 degrés comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir des solutions alternatives, il faut anticiper un certain nombre de décisions. Et malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui est fait depuis ces dernières années où l'État, le gouvernement, agit souvent sous la pression de petits groupuscules comme ça qui, je veux dire, à la sortie, le glyphosate, on verra ce qu'il en sera. Mais d'abord, moi j'aimerais bien que on interdise tous les produits d'importation qui ont été traités au glyphosate.
Éric Lions, récemment, un rapport sénatorial, a violemment critiqué la loi Egalim, agriculture et alimentation. Elle a été promulguée il y a un an. Elle était censée redonner du revenu aux agriculteurs en encadrant les promotions et en relevant le seuil de revente à perte. Mais au final, il s'avérerait que les seuls gagnants, eh bien, ce sont toujours les grandes enseignes de la grande distribution, et les grands perdants, ce sont les agriculteurs qui ne s'y retrouvent pas au niveau de leurs revenus, et les consommateurs qui, par contre, eux, ont bien vu qu'ils payaient plus cher. Pourquoi la bascule ne s'est pas faite sur le revenu de l'agriculteur ?
C'est à la fois simple et compliqué, parce qu'on est dans une organisation aujourd'hui, la grande distribution, hyper puissante, 4 ou 5 centrales d'achat en France, qui contrôle 90% du marché, et on est obligé de passer par ces goulots d'étranglement. Et bien entendu, les consommateurs se sont rendus compte qu'il y avait quelques hausses, Et les agriculteurs, eux, par contre, ne se sont jamais rendus compte qu'il y avait la moindre hausse. Je prends juste un exemple. Quand ils vont faire leurs courses dans une grande surface, ils pourront toujours constater, en allant faire leurs courses et en allant acheter leurs briques de lait, que le lait, aujourd'hui, de consommation courante, est parfois, et même souvent moins cher que l'eau minérale. Donc, on est quand même dans un système qui a complètement encadré, verrouillé toute mise en concurrence, et que malheureusement, même la loi Egalim n'a pas réussi à contrecarrer.
Et comment on y parvient justement? Parce qu'il va y avoir des nouvelles négociations en février prochain avec la grande distribution. Là, c'est peut-être le moment de taper du poing sur la table.
Aujourd'hui, une partie de la grande distribution, je dirais, commercialise des produits locaux, des produits identifiés, etc. etc. Parce qu'effectivement, la grande distribution cherche à capter tous les consommateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une part, même si elle augmente, qui est toujours négligeable dans le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire.
Faire ses courses, finalement, acheter des produits locaux en supermarché ne fera pas vivre un producteur local.
Non, je dis pas ça, parce que ils sont capables de faire des actions locales qui permettent de rémunérer les producteurs. Le problème, c'est que c'est qu'une petite partie, une infime partie de la production. C'est ça le souci. Et des fois sur des périodes très courtes, ou voilà. Mais ça fait partie des discussions que l'on doit aussi nous avoir agriculteurs avec la grande distribution. D'avoir des relations un peu plus équitables et malheureusement c'est parfois compliqué à faire entendre parce que c'est pas un monde qui pratique le commerce équitable en quelque sorte par nature. Pour ceux qui passent les appels d'offres, ils savent très bien comment ça se passe et c'est souvent les producteurs qui sont pressurisés quoi. Et donc il faut remettre un peu de l'ordre dedans ces négociations. On voit que la loi Egalim n'a pas été à la hauteur des espérances. Maintenant, il faudra peut-être mettre un peu plus de contraintes.
Merci beaucoup Éric Lion. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de l'agriculture des Hautes-Alpes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci à vous.